RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC et c'est le retour du week-end des experts. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là comme chaque samedi et dimanche, 6h-10h. Vous le savez, je suis aux côtés des meilleurs experts de France avec le samedi, le jardin, la maison. Tout à l'heure, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laissez la semaine, ce sera la Fiat Tipo Diesel 1.6 MJT 120. On parlera aussi des cartes grises. Vous savez que dans certaines régions, elles sont moins chères. On fera un petit top tout à l'heure. Et puis, en deuxième partie, on découvrira une nouvelle émission qui s'apprête à être diffusée sur RMC Découverte. Ce sera mercredi prochain, c'est Vintage Garage. Une mission, en fait, qui parle de voitures de collection. Et on recevra le présentateur de ce nouveau rendez-vous tout à l'heure avec Jean-Luc. Mais, vous le savez, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Laetitia, tout à l'heure, on va découvrir un fauconnier au Festival de Cannes.
Voilà.
Ça, c'est la classe, quand même.
Un championnat de pigeons voltigeurs.
Ça, c'est bien.
Ça, c'est unique en France.
On découvrira la fête de la nature dont c'est
le dixième anniversaire. Et qui commence mercredi prochain.
Voilà. Et puis, on va débuter sur cette actualité grave qui s'est déroulée il y a un petit peu plus d'une semaine. On le sait, ce bébé qui est mort parce qu'il s'est fait mordre le visage par un chien.
Voilà. Alors, nous avons avec nous le docteur Jasmine Chevalier, qui est vétérinaire comportementaliste à Saint-Cyr-sur-Mer, c'est dans le Var, membre de Zoopsie et auteur d'un livre qui s'appelle « Mon chat a mauvais caractère » aux éditions Erol. Jasmine, bonjour.
Bonjour,
bienvenue. Alors voilà, on vient de le dire, c'est ce fait dramatique, nous a amené à parler justement des problèmes de morsures, de morsures de chiens sur l'homme et en particulier sur les enfants. Alors vous qui réalisez des évaluations comportementales de chiens et donc des évaluations de ce qu'on appelle de dangerosité, dites-nous une chose, est-ce qu'il existe des chiens méchants et des chiens gentils?
Alors, c'est très difficile de rebondir sur un événement aussi cauchemardesque pour tous les parents et propriétaires de chiens que nous sommes. Mais c'est vrai que cette question-là, elle est vraiment fondamentale, chien méchant, chien gentil, parce que c'est une confusion fréquente. Les chiens ne sont pas dangereux parce qu'ils sont méchants. Le fait d'être méchant, le fait de nuire pour nuire gratuitement, ça ne fait pas partie des choses dont un chien est capable. En revanche, on a trop souvent tendance à oublier que les morsures font partie de ce qu'on appelle le répertoire comportemental normal, c'est-à-dire l'éthogramme du chien, et notamment les agressions, que ça aille du grognement au pincement ou aux morsures, quelle que soit leur gravité. On sait que dans 99% des cas, la finalité, l'objectif instinctif d'une morsure, c'est d'éloigner le protagoniste du chien ou de faire cesser une situation qui lui paraît intolérable. Et bien malheureusement, le chien, souvent, comme il ne parle pas, il a émis avant de mordre des signaux de communication, des postures, le regard tiré en arrière, les oreilles baissées, le poil hérissé.
Que l'enfant ne reconnaît pas.
Voilà, que déjà une partie des adultes ne reconnaissent pas, des fois c'est assez brusque, et les enfants encore moins. Et c'est pour ça que l'éducation des enfants et leur apprendre à respecter le chien est un élément vraiment important. Enfin, il faut quand même souligner aussi que certains chiens sont dangereux sans être agressifs, et que c'est pas toujours des morsures qui sont la cause des lésions. On a des chiens que nous, vétérinaires comportementalistes, connaissons bien, qui sont les chiens hyperactifs, cliniquement hyperactifs, qui peuvent provoquer des lésions dues à un manque de contrôle, à une brutalité.
Par exemple.
Voilà, et ça peut créer aussi des accidents graves. Et c'est bien pour ça qu'on réalise donc des évaluations comportementales pour connaître les circonstances de l'agression, pour identifier le terrain comportemental, l'environnement donc vraiment propre à l'animal, et pour pouvoir prescrire des mesures concernant tel chien dans tel environnement.
Justement, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'une évaluation comportementale ?
Alors, une évaluation comportementale, c'est un dispositif législatif qui date de 2008 et qui est vraiment une mesure extrêmement utile et importante. Une évaluation comportementale, c'est une consultation réalisée par un vétérinaire habilité, inscrit sur les listes, donc c'est très facile à trouver département par département. Cette évaluation, elle repose sur un examen médical, déjà en premier, parce que beaucoup de chiens sont amenés à être plus agressifs à un moment donné parce qu'ils ont mal ou qu'ils sont malades.
Et oui.
On a des maladies
Comme nous, quand on est, quand on a mal quelque part ou quand on a une douleur chronique, on ne veut pas non plus être touché ou être pris dans les bras parce que ça réveille la douleur, tout simplement.
Tout à fait. Et être malade, ça met de très mauvaise humeur. Donc, on a aussi des maladies, un certain nombre de maladies hormonales, voire même des maladies psychiatriques qui peuvent modifier complètement la perception que le chien a de son environnement. Donc, l'examen médical est évidemment une part importante. Ensuite, un entretien avec les propriétaires qui va permettre de retracer tous les comportements du chien, permet de faire la lumière sur ce terrain comportemental, le fond comportemental de l'animal. Et dans certains cas, on peut être amené à faire des mises en situation, c'est-à-dire observer le chien dans son environnement, aller se promener avec lui en prenant bien évidemment toutes les mesures nécessaires, voilà, pour affiner notre évaluation. L'évaluation donne un niveau de risque de 1 à 4. Le 1 étant le chien pas plus dangereux que les autres, le 4 étant le reflet de dangerosité extrême. Je souligne que le risque de 0 n'existe pas et le législateur l'a bien prévu.
Bah oui, bah
c'est-à-dire
oui.
qu'un même un labrador gentil comme tout, pattes, etc., peut, voilà, sous certaines conditions, devenir agressif et mordre. On est d'accord.
Voilà, c'est on n'a pas trouvé le, on n'a pas trouvé le chien qui morde pas, comme on a trouvé les chats sans poils. non, c'est pas possible. Et tous les animaux peuvent avoir des agressions, je dirais presque. Évidemment sorti du contexte actuel, mais des agressions légitimes, à commencer par le fait de se faire écraser la patte ou tirer les oreilles, enfant ou un adulte.
Mais on peut comprendre, c'est vrai qu'un chien puisse mordre quelqu'un quand il se fait agresser, etc., ou quand on le pousse à être agressif. Mais c'est vrai que dans ce cas du bébé,
alors là on va pas revenir sur le cas parce qu'on a très peu d'informations.
Effectivement, mais c'est la question qu'on peut se poser.
Alors moi, ce que j'aimerais, ce dont je j'aimerais parler, c'est on a mis en avant le fait que ça soit un chien de race américaine, Staffordshire Terrier. Alors, en disant, bah voilà, c'est un chien de catégorie 2, selon les législateurs. Oui. Il entre dans la liste des chiens dits dangereux, selon la loi. Est-ce que, Jasmine, les chiens catégorisés 1 ou 2 sont plus dangereux que les autres?
Alors, ça, c'est vraiment une grande question et c'est encore un sujet sensible et très militant. Je pense que la grande majorité des professionnels du chien, dont les vétérinaires font partie, pensent que non et luttent contre cette idée. Pour la petite histoire, cette loi qui date de 1999 est une loi basée sur l'appartenance à une race. D'un point de vue philosophique et éthique, déjà pose quand même un peu question. Ces lois, elles ont été initiées à la base en Amérique du Nord, où la problématique des pitbulls n'était pas exactement la même que la nôtre, et tous les pays européens les ont adoptées à la suite. En revanche, on n'a pas d'observatoire en France qui permette ou qui ait permis de vérifier quel avait été l'effet réel de cette loi sur les accidents. Il y avait un observatoire du comportement canin qui était prévu dans la loi de 2008 et qui a été abrogé avant de voir le jour. Or, il est très difficile de savoir quel est l'effet réel d'une loi si on ne suit pas ses effets sur...
Mais on a quand même des données sur les morsures en France, savoir est-ce que ces chiens de catégorie 1 ou 2, comme l'American Staffordshire Terrier ou le Rottweiler, qui fait partie aussi de la catégorie 2, est-ce que ce sont des chiens plus mordeurs que les autres?
Alors, sur les études qui sont pas très nombreuses qu'on a, non, ces chiens-là ne sont pas plus mordeurs que les autres. Et par contre, la loi a eu deux effets pervers que les gens doivent bien connaître. La première, c'est que les contraintes sont telles sur les chiens de catégorie, port de la muselière, marche en laisse, interdiction des lieux publics, qu'on a créé les conditions parfaites pour créer effectivement des chiens sociaux. Et le deuxième effet pervers, et ça a été dit dès le début de l'entretien, c'est de croire que tous les chiens qui ne font pas partie d'une catégorie ne sont pas dangereux. Ça, c'est profondément faux.
Ben bien sûr, bien sûr. Et on a des études, justement, sur les races de chiens qui mordent et quelles sont les personnes aussi qui le mordent.
Alors, il y a une étude qui a été réalisée en France, qui a été publiée en 2011, une étude conjointe réalisée par l'Institut de veille sanitaire et l'association Zoopsy, qui est l'association de vétérinaires comportementalistes et zoopsychiatres. En fait, Zoopsy a un peu remonté ses manches pour aller chercher des vraies données sur le terrain. Et le principe de cette étude, c'était d'aller recruter aux urgences les cas de personnes ayant été mordues par des chiens et de faire une étude parallèle sur la victime elle-même, son âge, etc., et les lésions qu'elle présentait, et d'appeler ensuite le propriétaire du chien responsable de la morsure pour connaître notamment les circonstances d'apparition. Mmh. Donc, cette étude, elle est vraiment le reflet du sérieux de cette association Zoopsy, parce qu'elle nous donne des données, pour le coup, dénuées de tout a priori, et qui sont vraiment intéressantes. Alors, si vous me laissez quelques minutes, il y a quatre...
Ce que je vous propose, Jasmine, c'est de revenir dans un instant, et on va découvrir ces quatre aspects.
Les résultats de cette étude.
Voilà, comme ça, là on crée un suspense insoutenable, hein, Jasmine, on est d'accord. Voilà, on en parle dans un instant. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin, le 32-16. Si vous voulez nous joindre, bien entendu. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
7h21, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Laetitia, on évoque les relations... entre les enfants et les chiens, plus particulièrement l'aspect qu'un chien de temps en temps peut mordre un individu, hein, on essaie de comprendre
même
pourquoi.
Même si c'est rare,
évidemment.
Le cas de enfin c'est rarissime.
Et tous les chiens peuvent mordre, c'est ça aussi.
Bien sûr.
C'est-à-dire que potentiellement tous les chiens peuvent mordre.
Comme moi, tous les hommes et les femmes peuvent donner des claques.
Exactement. Heureusement que ça ne m'est jamais arrivé. On m'avait jamais frappé, Laetitia, depuis toutes ces années.
Non.
J'ai eu chaud.
Mais bon, je sais pas si vous marchez sur le pied.
C'est vrai que je risque d'en prendre une. Jasmine Chevalier est avec nous.
Alors Jasmine, on parlait d'une étude justement des morsures, qui a été réalisée par l'association Zoopsy et l'Institut National de Veille Sanitaire. Quels sont les résultats de cette étude ?
Alors déjà, pourquoi cette étude sur les chiffres préalables ? Il faut vraiment souligner le fait que les décès liés à des accidents qui mettent en cause des chiens sont des accidents domestiques relativement rares, puisqu'on est en moyenne un décès par an. En revanche, si on extrapole, on peut s'attendre à environ 50 morsures pour 100 000 enfants de moins de 15 ans par an. Là, par contre, est beaucoup plus conséquent.
Oui.
Donc, sur les résultats, sur les 500 recours aux urgences qui ont été analysés, on se rend compte qu'un cas sur trois concerne effectivement un enfant de moins de 15 ans.
Oui.
Et que pour les enfants de moins de 10 ans, on apprend que 70% des morsures se passent en dehors de la présence d'un adulte. Un élément notable pour faire de la prévention.
Exactement. Concernant les chiens, d'où viennent-ils ces chiens ?
Alors, dans 8 cas sur 10, et ça toutes les études préalables ont toujours confirmé, dans 8 cas sur 10, le chien est connu de la personne qui a été mordue. C'est soit le chien de la famille, soit le chien de l'entourage proche.
Oui, c'est pas le chien dans la rue qui s'attaque
pas
comme ça.
Le chien errant, voilà, qu'on connaît pas. Et d'ailleurs, il semblerait que plus le chien est connu, plus les morsures sont graves. Sur les races, alors le suspense est à son comble. Hein, sur le trio tête des races de chiens qui mordent le plus en France, on retrouve, comme dans la plupart des études préalables, le trio en fait des chiens les plus à la mode et les plus présents dans les familles.
C'est-à-dire ?
Donc à l'époque de cette étude, le Jack Russell, le berger allemand et le Labrador.
Le fameux Labrador, voilà, qui est quand même dans le trio de tête des chiens mordeurs.
Jasmine n'est plus là. Jasmine ?
Si,
oui. D'accord, ok. On a eu peur.
Alors, rappelez-nous quand même, très vite, les règles. On vient d'en parler concernant la prévention, la présence des parents, mais les règles quand même pour que, pour une cohabitation harmonieuse entre l'enfant et le chien et pour qu'on ait un chien gentil avec un enfant.
Alors, on peut reprendre tout simplement les conclusions de cette étude,
ouais.
Vous saviez pas mal le terrain. Déjà, dans 40% des cas, le chien avait déjà mordu, donc si votre chien a des comportements qui semblent potentiellement agressifs, n'attendez pas et consultez rapidement un vétérinaire qualifié pour vous aider. Et ensuite,
mordu ou pincé, hein, parce que je sais que des personnes disent pincé en disant il a juste pincé, mais pincé, c'est mort.
L'acte est le même pour le chien.
C'est la même chose.
D'accord.
Voilà.
L'intention est la même, du grognement à la morsure, l'intention est la même, c'est simplement l'intensité qui varie. Donc effectivement, dès les premiers signes, consulter et faire attention aux quatre situations qui expliquent trois quarts des morsures. Tout ce qui concerne les manipulations du chien, notamment quand le chien a mal, mais aussi dans les manipulations coercitives, et ça les enfants sont assez champions pour ça. Pour les adultes, séparés de chiens qui se battent, c'est 15% des blessures. Toutes les agressions de chiens en train de garder son territoire, donc l'intrusion dans un espace réservé aux chiens, 15% des morsures. Et enfin...
C'est quoi l'espace réservé aux chiens ? C'est la niche, le chien attaché ?
Oui, plutôt le chien attaché, le chien dans son jardin fermé, le fait de rentrer dans un jardin qui n'est pas le tien. Donc là, ça concerne peut-être plutôt des chiens inconnus, mais effectivement, les agressions qu'on appelle territoriales, elles sont responsables de 15% des lésions dans l'étude citée. Et enfin, pour les enfants, 10% des agressions ont lieu autour du lieu de couchage ou dans un contexte de prise de nourriture. Et je pense qu'il faut absolument expliquer aux enfants, d'ailleurs plus jeune âge, qu'un chien qui dort, on ne doit pas le déranger dans son panier et on laisse les chiens manger tranquille.
Voilà.
D'accord. Bon, Laetitia, est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on pourrait donner avec Jasmine concernant voilà, les relations qu'on peut avoir avec un chien, notamment les enfants?
La socialisation aux enfants aussi.
Voilà, donc c'est-à-dire présenter les enfants le plus tôt possible aux chiens,
voilà.
C'est ça?
Jasmine?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que quand on a des enfants et qu'on veut un chien, il faut prendre un chiot jeune, entre 2 mois et 2 mois et demi, ne pas l'adopter trop tard sur son lieu de naissance, parce que sa période de socialisation s'est allée seulement jusqu'à 4 à 6 mois, donc il y a beaucoup de choses à apprendre dans sa petite enfance, et le mettre dès le départ en situation... l'emmener partout, le présenter à tout le monde pour qu'il vraiment il s'habitue à son milieu de vie futur, même s'il n'a pas tous ses vaccins. Ça, c'est encore une vieille idée reçue qu'on entend bien trop souvent et c'est vraiment une erreur. Il doit sortir dès qu'il a son premier vaccin, qui le protège moins longtemps, mais qui le protège tout aussi bien. Et ensuite, un chien heureux, c'est un chien dont on respecte le bien-être et l'équilibre comportemental, de l'exercice physique, des soins et une vie sociale et intellectuelle riche, qui lui permettent de vivre des situations diverses et d'y réagir avec sérénité.
Voilà, d'être socialisé, comme vous le dites. Merci beaucoup, Jasmine.
Merci beaucoup, Jasmine, pour toutes ces précisions.
Voilà, et puis bien sûr, les parents, surveiller leurs enfants avec leurs chiens, surtout quand ils sont en bas âge.
Ne jamais laisser un chien seul, même si...
Malheureusement,
s'il s'agit d'un gentil labrador, seul
bien
avec
sûr.
Son enfant, surtout
Exactement,
en bas âge.
Surtout en bas âge. Et ça, c'est la base. Laetitia, il est bientôt 7h30, on va revenir après la météo et les infos. On va s'intéresser à la fête de la nature dans quelques minutes. On va parler aussi d'un championnat de pigeons voltigeurs et puis nous irons à Cannes, non pas monter les marches, mais découvrir un fauconnier. Pourquoi ? Vous le saurez tout à l'heure. Et puis, si vous voulez nous joindre ce matin, comme d'habitude, le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. On revient après la météo et les infos de 7h30. À tout de suite. Laetitia Barlerin, une petite question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Dany qu'on a reçue sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Au passage, vous pouvez cliquer sur...
J'aime, bien sûr.
Je pars en vacances avec mon bouvier bernois Fidji, la tia-tia.
Oui.
J'ai entendu dire que le sel était nocif pour lui. Que faire s'il se baigne ou marche dans la mer?
C'est vrai que la plage, c'est bien pour les chiens parce qu'ils peuvent courir, ils peuvent se baigner.
Et en plus,
ils
se régalent.
Ils se régalent. Mais il faut faire attention au sel et au sable. Pourquoi le sel et le sable? D'abord, le sable peut irriter les yeux. On peut avoir des conjonctivites dues justement à ce sable dans les yeux. Et puis, le sel et le sable irritent entre les doigts. Le ventre aussi, enfin les parties où il y a le moins de poils en tout cas. Et c'est vrai qu'on a souvent, suite à des baignades, suite à des marches tout simplement sur le sable, des irritations au niveau des pattes, des chiens qui boitent, des chiens qui se lèchent entre les doigts, entre les coussinets, ou qui se lèchent aussi le ventre, parce qu'ils ont des rougeurs dues à ce sel et à ce sable. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, en rentrant de la plage, vous rincez à l'eau claire votre chien, surtout, comme je vous dis, au niveau des pattes et du ventre. Et vous pouvez faire même une fois par semaine un shampoing pour vraiment bien le nettoyer. Et puis autre chose très importante, il faut éviter que le chien boive l'eau de mer. Ça arrive.
Ah.
Mais bon, c'est de l'eau salée.
Ils se rendent pas compte, en fait. Ils ont soif, ils vont boire.
Voilà, ils vont boire. C'est sympa, machin. Ouais. Le problème, c'est que l'eau salée, ça fait vomir. Ouais. Parce que ça crée une irritation au niveau de l'estomac. Mmh. Donc voilà, il faut vraiment éviter. Et puis, dernière chose, s'il y a un eczéma au niveau des pattes ou au niveau du ventre, vous passez soit une pommade prescrite par votre vétérinaire, soit, par exemple, une pommade pour les fesses des bébés.
Et là, ça marche.
Ah bah oui.
32-16, pour toutes vos questions animaux sur RMC. N'hésitez pas à nous appeler.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est RMC 7h35, le week-end des experts, le retour. Merci d'être là. Les animaux, avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin jusqu'à 8h. Et puis juste après, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, bien sûr, comme chaque dimanche. Laetitia, tout à l'heure, on va découvrir le fauconnier de Cannes. Alors, pourquoi y a-t-il un fauconnier à Cannes? Surtout en cette période de festival, hein. Est-ce que ça a un rapport avec Steven Spielberg? On verra ça tout à l'heure. Le championnat de pigeons voltigeurs aussi, on va l'évoquer dans une minute. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va fêter dignement la nature.
Et oui, puisque du 18 au 22 mai, c'est-à-dire de mercredi à dimanche, nous fêtons la nature. C'est la fête de la nature qui fête ses 10 ans cette année. Et nous sommes avec François Letourneux, qui est président de la fête de la nature. François, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, comment est née cette manifestation, la fête de la nature?
Eh ben, on s'est inquiété il y a quelques années de ce que les gens étaient de plus en plus derrière leurs écrans et perdaient un peu l'habitude d'avoir le contact direct avec, les fleurs et les animaux. Et on s'est dit, il faut au moins une fois par an leur offrir l'occasion, accompagné par des gens passionnés, des professionnels ou des bénévoles ou des amateurs ou des militants d'associations, leur donner l'occasion d'aller tout simplement s'asseoir dans l'herbe et voir passer des oiseaux qu'on leur présente ou aller voir des choses qu'on ne montre pas d'habitude, comme les mues des libellules sur les mares ou les grenouilles et les crapauds dans la nature.
Alors, il y a plus de 5000 activités qui sont proposées partout en France, plus de 1300 lieux. C'est énorme, ça. Alors, ce sont des bénévoles qui vous emmènent, comme ça, oui, au contact de la nature et des animaux.
Voilà, la règle, c'est que c'est dans la nature, que c'est gratuit et que c'est pas triste. Alors, voilà les trois conditions.
Donnez-nous un peu des idées d'activités.
Allez.
Eh bien, ça va des choses les plus... Je pense que je ne vais pas vous donner d'exemples précis parce que il suffit d'aller sur le site www.fetedelanature.com, mais puisque il faut mieux trouver quelque chose près de chez soi. Mais on peut dire qu'on peut le soir venu, par exemple, repérer les chauves-souris qui habitent près de chez soi simplement grâce à un appareil qui transforme les ultrasons qu'émettent ces chauves-souris en sons qu'on entend. Et les gens qui vous accompagnent vous expliquent ça. C'est un vespertillon, ça c'est une noctuelle, etc.
D'accord.
Et puis on peut aussi bien sûr aller voir des oiseaux dans les grandes réserves que tient la Ligue de protection des oiseaux
avec un ornithologue qui nous explique vraiment ces oiseaux.
Voilà. Parce que comme nous en avons un peu perdu l'habitude d'être dans la nature, il suffit souvent qu'on nous montre les choses pour que nous constatons qu'elles sont là. Mais quand on nous les montre pas, on les voit pas.
Alors ce sont que des passionnés ou des professionnels qui nous emmènent par la main voir ces animaux.
Ça peut être aussi des gens très simples, hein. Un jardinier qui s'est donné la peine, premièrement, de renoncer complètement aux pesticides, ce qui est indispensable si on veut avoir des insectes et des oiseaux, et deuxièmement, d'aménager, de semer des fleurs qui font venir les papillons ou de nourrir les oiseaux tout l'hiver, peut vous emmener dans son coin de jardin et vous montrer des choses que vous ne soupçonniez pas.
Et donc c'est ouvert pour les parents et les enfants, bien entendu.
Oui, bien sûr.
Alors, c'est bien de montrer cette biodiversité en France, en particulier des animaux, mais est-ce que la faune française se porte bien?
C'est contrasté. C'est contrasté. Paradoxalement, les espèces rares dont on s'occupe, qu'on protège, vont mieux. Elles vont beaucoup mieux. La loutre a recolonisé une bonne partie des territoires qu'elle occupait. Le castor est beaucoup plus nombreux et lui aussi est revenu. On sait que l'ours des Pyrénées, modestement, timidement, ses effectifs augmentent un peu. Pour les oiseaux, c'est même encore plus spectaculaire, puisque un rapace comme le busard des roseaux a vu ses effectifs augmenter de 300%.
300%, c'est quand même beaucoup.
Ouais. Mais alors, en revanche, en même temps, ce qui se passe, c'est que les oiseaux communs, les animaux ordinaires, leur nombre s'effondre. Leur nombre s'effondre à cause de la situation générale, de la disparition des milieux qui les accueillent et puis des produits chimiques.
Et des insecticides qui diminuent aussi les populations d'insectes.
Bien sûr, c'est ça. Et quand on diminue les populations d'insectes, évidemment, on diminue drastiquement les populations d'oiseaux qui mangent des insectes. Et la chaîne alimentaire est affectée gravement. Alors les alouettes, moins 60%, les moineaux, moins 40%, etc.
Très bien, François Letourneux, merci beaucoup.
Donc voilà, pour
trouver une nature. Voilà. Toute la fin de la semaine pour des manifestations près de chez vous.
Du 18 au 22 mai.
Voilà, allez sur le site de la Fête de la Nature. Alors vous dites, c'est très simple, vous marquez dans quelle région vous voulez aller, ouais. Où vous êtes.
Et on trouvera les animations
quelles
qu'il y a
autour de vous. Si vous voulez plutôt végétaux, plutôt animaux. Et là, on vous donnera la liste de ces manifestations qui sont gratuites de mercredi à dimanche.
Parfait. Merci beaucoup, François.
Merci,
c'est bien
François.
Fêter la nature comme ça.
Ben oui, c'est très bien.
8h-20, c'est RMC. Et si maintenant nous fêtions les pigeons voltigeurs, Laetitia? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons avec nous Anthony Julliard,
qui est secrétaire du club des acrobates du ciel, qui organise ce week-end au parc du Petit Prince, ça se trouve en Alsace, dans le Haut-Rhin, le championnat international de pigeons de vol acrobatique.
Eh bien, dites-moi.
Je le dis bien. Mais alors, Anthony, vous allez nous expliquer ce que c'est le championnat international de pigeons de vol acrobatique. Anthony, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Donc, le championnat a lieu tous les ans. Donc, on est réunis pour procéder au jugement par catégorie de nos animaux, qui viennent d'un petit peu partout en France et de l'étranger, puisqu'on a la présence cette année de plusieurs concurrents suisses et allemands.
Oui. Alors, c'est quoi cette discipline?
Alors, cette discipline, elle constitue en fin de compte à utiliser les aptitudes naturelles de nos animaux à effectuer des figures en vol. Donc, des figures qui sont la plupart du temps acrobatiques. On a la figure de base qui est la culbute, qui en fin de compte est tout simplement un saut périlleux en arrière qui effectue le pigeon lors de son vol.
Le pigeon, c'est un saut périlleux en arrière dans son vol.
En arrière. En fin de compte, que nous, on appelle une culbute, c'est-à-dire qu'il tourne sur un axe imaginaire, bien sûr, sur l'arrière. Donc, effectue vraiment un saut périlleux qui dure quelques secondes. C'est très, très rapide. Donc, on a du mal vraiment à l'appréhender quand on n'a pas l'œil pour ça.
D'accord.
Mais ça, c'est vraiment la figure basique de départ sur laquelle beaucoup d'autres, après, ont évolué.
Et alors, il y a aussi une autre figure, c'est le haut vol, c'est quoi?
Alors, le haut vol, c'est pas une figure, c'est une aptitude aussi, mais le haut vol consiste en fin de compte à une montée la plus rapide possible, à une hauteur où le pigeon peut quasiment ou même totalement disparaître de la vue de l'éleveur et doit en fin de compte y rester le plus longtemps possible. Les concours sont basés là-dessus. Alors ça, par contre, on ne le verra pas au championnat puisque c'est quelque chose qui se fait à domicile, puisqu'il faut que le pigeon ait une très bonne connaissance du lieu sur lequel il évolue pour ne pas se perdre déjà premièrement et puis pour pouvoir avoir toute confiance pour monter aussi haut.
Alors je sais qu'il y a aussi des plongeons en vrille.
Voilà, alors vous avez des plongeurs en vrille, dont le plus connu est le pigeon Kelebek, qui est un pigeon d'origine turque, qui en fin de compte, en descendant, effectue une vrille sur un axe, lui par contre, qui va de la pointe du bec à la queue, et en fin de compte, descend dans une forme de spirale très serrée, qu'on pourrait en fin de compte décrire un peu comme un tire-bouchon, et donc on voit ce pigeon descendre un petit peu comme un volant de badminton qui tournerait à très grande vitesse.
C'est incroyable ça, mais comment vous faites pour que... Enfin, ils sont dressés vos pigeons ?
Alors, l'éducation consiste pas dans la figure, mais à leur apprendre à revenir. Toutes les aptitudes sont génétiquement présentes dans les...
C'est naturel chez eux.
Voilà, c'est naturel dans la race, c'est concentré par la sélection qu'effectue l'éleveur, mais c'est totalement quelque chose de génétique, c'est pas quelque chose qu'on va leur apprendre. C'est-à-dire que le pigeon naît avec cette aptitude, avec ses capacités, comme toute personne, il est potentiellement meilleur qu'un autre parce qu'il est génétiquement prédisposé à ça. Mais nous, on ne leur apprend pas à culbuter.
Alors attendez, dans la nature, ils culbutent ?
Alors, dans la nature, le pigeon bisé ne culbute pas, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il serait beaucoup plus facile pour les rapaces de les attraper et donc de les manger. Donc, ces aptitudes disparaîtraient dans la nature, en fin de compte. Elles ont été...
Sélectionnées par l'homme.
Cultivées, entre guillemets, par l'homme, voilà. C'est la sélection de l'homme qui a fait que ce type de comportement a été de plus en plus concentré.
D'accord. Mais alors, c'est une discipline, on peut dire un sport, qui existe depuis longtemps. Comment est né ce sport ?
Alors, en fin de compte, on sait qu'il est né dans le bassin de la Méditerranée, donc toute l'ancienne Mésopotamie. Alors, on n'a pas vraiment de date exacte. C'est relativement ancien. Certaines très vieilles gravures le prouvent. En France, c'est arrivé un petit peu plus tard. Il y a eu une période avant-guerre où il y avait des pigeons culbutants en France, puis ça avait quasiment ou totalement disparu. Et sous l'impulsion des Allemands qui sont très férus de ce type de sport, en fin de compte, c'est revenu un petit peu après la Seconde Guerre mondiale, et puis ça a commencé à s'instituer. On a créé des clubs et des institutions à partir des années 70.
Alors, en concrètement, vous envoyez votre pigeon, il fait les figures, comment ça se passe hein?
Alors, concrètement, on n'en voit pas. Je vais les envoyer, parce que c'est quand même pas du talon.
Allez, va.
Voilà, on sort les animaux donc de leur logement, qui sont des pigeonniers transportables, pour ce qui nous occupe aujourd'hui.
Ah, on les entend d'ailleurs, ils sont pas loin de vous, là.
Alors, non.
Ah, non.
Ça doit être un pigeon sauvage qui doit se trouver pas loin.
Oui, on a des pigeons dans le studio.
C'est pour ça.
On en a installé quelques-uns.
Ils vous écoutent, là, parce qu'ils veulent postuler pour le prochain championnat.
Pas de soucis, ils sont les bienvenus. Donc on sort les animaux, on leur donne un signal. Alors après, chaque éleveur a sa petite méthode personnelle. On lâche les pigeons partent et volent. On juge, nous, donc, effectivement, les figures qui sont à comptabiliser, et c'est le maximum de points qui remporte le championnat dans la catégorie, bien sûr, associée.
Alors, est-ce que les Français sont bien placés? Parce que je crois que la compétition a commencé hier.
La compétition a commencé hier, avec d'ailleurs essentiellement des jugements français hier. On va débuter des jugements vraiment internationaux aujourd'hui. En règle générale, les Français sont relativement bien placés. On a cette année plusieurs champions d'Europe parmi nos membres. Donc on est relativement bien placés.
Bon, c'est bien, vous êtes prêts pour l'Eurovision l'année prochaine, donc.
Je suis pas sûr que le champ du pigeon gagne l'Eurovision. Mais c'est à tenter, pourquoi pas.
Bon, alors, si on est intéressé par cette discipline qui est quand même assez insolite.
Oui.
Donc on peut se rendre aujourd'hui au parc du Petit Prince en Alsace, c'est ça?
C'est bien ça.
À partir de quelle heure?
Alors à partir de 9h, nous on sera sur place, le parc lui ouvre à 10h et normalement c'est en continu jusqu'à 17h ou 19h ce soir, ça dépendra du nombre de participants au championnat.
Voilà, si vous voulez voir des culbutes de pigeons.
Alors on sera sur place pour expliquer, pour commenter, pour répondre aux questions.
Et oui.
Parce que le but du jeu est avant tout de partager, de faire découvrir cette discipline au maximum de personnes et pourquoi pas faire naître des vocations.
Bon alors Anthony, rassurez-nous, il y aura aucune maltraitance d'animaux.
Alors non, de toute façon les règles sont très strictes là-dessus. On a un total contrôle sur ça, que ce soit sanitaire ou que ce soit même dans la protection des animaux, sur le fait de maintenir les animaux dans de bonnes conditions, de ne pas les maltraiter bien sûr, et surtout de ne pas attenter à leur intégrité physique.
Merci Anthony.
Eh bien, merci beaucoup Anthony.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci et bonne compétition alors.
On va scruter les... J'imagine qu'en scrutant les pigeons parisiens, on ne verra pas de culbutes et de choses comme ça, Anthony.
Hein? Ah, vous pouvez essayer. Si vous trouvez, surtout surveillez
on
bien
vous cet appelle.
Animal-là,
non,
il est exceptionnel.
Un plongeon en vrille, c'est pas mal aussi.
Oui, c'est pas mal, c'est vrai, d'accord. C'est très bon.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Bon,
au revoir.
Laetitia, après les pigeons qui voltigent, on va s'intéresser aux faucons qui peuvent protéger les festivaliers d'autres attaques d'oiseaux.
Et oui, c'est un peu les gardes du corps des stars. Enfin, les autres gardes du corps des stars.
Et voilà, parce que les stars, il ne faut pas les déranger.
Ah bah non.
Quand elles sont à Cannes.
Bah non.
Les Woody Allen, les Steven Spielberg, Julia Roberts qui va fouler les marges du festival sera là aussi. Donc il faut faire attention, les protéger, les fauconniers sont là. On en parle dans un instant avec Laetitia et notre invité. 3216 animaux@rmc.fr si vous voulez nous joindre ce matin. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 8h-10, c'est RMC, c'est le week-end des experts, et c'est les animaux, voilà. Dans quelques instants, c'est Jean-Luc Moreau qui nous rejoindra pour l'automobile. Laetitia, direction maintenant Cannes, ses stars, ses ambiances, ses fêtes, c'est la fête du cinéma, bien sûr.
Et ses faucons.
Et alors, c'est là qu'on ne comprend plus, Laetitia, et ses faucons.
En un mot.
En un seul mot, bien sûr. Et oui, parce que en fait, les faucons ont un rôle pendant le festival à Cannes, Laetitia.
Voilà, et nous sommes avec Christophe Puzin, qui est fauconnier, pour...
Oui.
Allô?
Oui. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Oui,
bonjour.
Bonjour, qui est fauconnier professionnel, bonjour. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gardes du corps pendant le festival de Cannes pour
Évidemment.
Protéger les stars. Et vous êtes un petit peu un garde du corps particulier avec vos faucons. Dites-nous, pourquoi l'hôtel Martinez a fait appel à vous?
Ah, je sais pas si on peut dire qu'on est des gardes du corps, mais oui, on est présent au Festival de Cannes pour l'hôtel Martinez pour éviter qu'un goéland s'amuse à descendre sur les tables des clients.
Ah oui.
Ça, voilà, que ce soit une célébrité ou pas, hein, mais pour éviter
les pics assiettes.
Voilà, les pics assiettes.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pics assiettes à Cannes, mais alors là, le goéland, ça fait vraiment tache, hein. C'est ça?
Ouais, c'est un peu ça.
Et quels sont les oiseaux que vous utilisez, avec lesquels vous travaillez, tout simplement?
Ouais, tout à fait. Alors là, en milieu urbain, on utilise des buses de Harris. C'est les Harris Hawk.
Oui.
C'est une buse américaine qui vit seulement à l'état sauvage aux États-Unis, sur le continent américain.
C'est des grands oiseaux?
Non, il y a beaucoup plus gros, hein, comme rapaces. Mais c'est des rapaces qui sont très agressifs envers les volatiles qu'on veut effaroucher, puisqu'on est là pour effaroucher. Et c'est la seule espèce au monde qui vit en groupe,
oui.
Comme les loups, qui sont grégaires.
Donc du coup, vous en avez plusieurs?
Voilà, ça nous permet de lâcher plusieurs individus ensemble pour protéger l'établissement sans qu'elles s'attaquent entre elles. Parce que c'est important, parce que dans la nature, c'est un peu la loi du plus fort. Et cette espèce chasse ensemble naturellement.
Donc elles, alors,
c'est sauvage.
Ils chassent les goélands parce qu'il y en a beaucoup à Cannes et sur la côte. Hein. C'est vrai que ils sont un peu pique-assiettes.
Ils ont de moins en moins peur en plus des humains. Hein.
Et surtout, ils ont de moins en moins peur. Et les pigeons, j'imagine aussi.
Voilà, tout à fait. On s'est rendu compte que notre métier serait en expansion. Hein. On a une forte demande parce que depuis quelques années, il y a de plus en plus de goélands. C'est dû aux déchets laissés par l'homme, hein, forcément, hein, parce que plus elle a mangé, plus elle se reproduit. Du coup, maintenant, les goélands sont de plus en plus présents. Comme vous dites, ils n'ont plus peur de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme leur lance un bout de pain, une chips sur la plage.
Eh ben oui, c'est marrant. C'est marrant.
Du coup, voilà, c'est marrant. On fait une belle photo. Le goéland est approché à 2 mètres. Puis après, il vient vous chercher dans la main. Et cet animal, le goéland, c'est un animal qui est très, très, très intelligent. Nous, on est vraiment spécialistes du comportement animalier de la faune sauvage.
Oui.
Et on s'est aperçu en 5 ans que cet animal est très intelligent.
Oui.
Car il arrive à nous reconnaître physiquement, donc facialement, hein, d'une année sur l'autre, sans que l'on sorte nos rapaces. C'est-à-dire que quand on arrive 6 mois après, parce qu'on travaille 6 mois en saison estivale, hein,
c'est
pas quoi, on descend du véhicule. On fait 2 mètres dans un établissement. Et là, les goélands qui sont... Parce que c'est quand même très territorial sur la côte. Ils survolent, ils nous voient. Et là, ils vont se mettre à alerter, donc à crier. Et descendre de faire des passes, ce qu'on appelle d'intimidation sur notre tête.
Ah oui.
Et après, vous avez 50 goélands qui nous tournent autour.
C'est pas
pour
vrai.
Dire attention, attention. Les prédateurs sont là. Surtout, ne vous descendez pas sur les sabots, Martinez.
C'est pas vrai. Ils se disent donc, entre eux, attention Martinez, on n'y va plus
voilà,
là.
Enfin, c'est ce que je reconduis, si vous voulez. C'est ce que c'est ce qu'on pense, hein, parce que bon, les animaux alertent. Hein, quand
bien
danger,
sûr. Voilà, puis alors, sûr. Vu le monde qu'il y a, là, ils vous ont bien repéré, parce qu'ils le font pas à chaque fois que qu'une personne sort d'une voiture, ça c'est sûr.
Non, complètement. C'est pour ça que voilà, ça fait 3 ans maintenant qu'on s'aperçoit qu'ils nous reconnaissent. Il y a aucun problème.
Quoi. L'année prochaine, vous viendrez juste vous.
Voyez, voilà, il faudrait que vous mettiez une cagoule.
Voilà. Mais on y a déjà pensé, c'est-à-dire que les premières journées quand on arrive sur un autre établissement, c'est exactement le cas. La première journée, on ne peut pas lancer en attaque nos oiseaux. Ça ne sert strictement à rien. Parce qu'au bout de 20 minutes qu'ils ont alerté, ils partent. Et puis, on sait que l'hôtel n'aura aucun problème.
Ah oui.
C'est incroyable.
On est vraiment là, quoi.
Mais quand vous lâchez, alors au bout de plusieurs jours, quand vous lâchez quand même vos oiseaux, comment travaillent-ils? Ils attaquent carrément ou c'est juste dissuasif?
Alors on appelle ça de la dissuasion aviaire, d'accord?
Oui.
Mais aujourd'hui, pour que ça fonctionne réellement, c'est pas le fait de mettre juste un prédateur sur une perche, hein, voilà, au bord d'une piscine ou de l'avoir sur le gant qui fait peur aux autres animaux. Si vous n'avez pas une attaque d'un prédateur.
Oui.
L'animal n'aura pas peur.
D'accord. Donc ils attaquent.
En fait, voilà. Donc là, on lance nos oiseaux. C'est-à-dire que nos oiseaux volent, hein, on les lance. Dès que les goélands approchent trop, on les lance dessus. Enfin, c'est qu'on les lance. C'est qu'instinctivement, ils partent de notre gant parce qu'ils voient qu'il y a une proie potentielle à manger. C'est l'instinct des prédateurs qui déclenche. Donc ils partent en volant, ils essaient de le capturer et le goéland s'éloigne. Sachant que la défense du goéland, c'est de rentrer en mer. Parce que la masse d'eau, on s'est aperçu que nos rapaces en ont peur.
Donc ils stoppent.
Et en même temps, les goélands avertissent les autres goélands en disant, voilà.
Le goéland crie, les autres voient qu'il y a un prédateur, enfin, qu'un prédateur agresse un de leurs congénères, si vous voulez, et là, ils se mettent à alerter, vous avez 50, 60 goélands qui tournent dans le ciel.
Ils s'envoient un mail.
Voilà. Ouais, non, mais ça communique énormément. Ouais.
C'est incroyable. Alors, vous qui devez croiser pas mal de stars quand même, comment réagissent ces stars quand elles voient vos rapaces?
Ah ben complètement curieuse.
C'est vrai.
It's amazing. Ça c'est le mot.
Ah, vous devez avoir des selfies avec les stars.
Ouais, c'est assez marrant. Pendant 10 jours, on est dans une bulle où on côtoie des célébrités. C'est pas du tout notre monde. mais c'est sympa parce qu'elles sont curieuses. Bon, après elles sont très sollicitées. Nous, on les sollicite aucunement.
Oui.
Mais par contre, elles viennent vers nous pour dire mais pourquoi vous êtes là avec des rapaces, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Alors on leur explique. Et elle nous demande, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire une photo avec vous, quoi? Et du coup, on est sur pas mal de portables, d'appareils photo depuis de 3 jours.
Eh ben, c'est très bien. Merci Christophe.
C'est vous la star des
c'est
stars.
C'est vous la star, en fait.
Ouais, c'est assez marrant. Ouais. Ouais.
Merci Christophe.
Merci Christophe.
Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette profession, justement, allez sur le site de Christophe Puzin, qui s'appelle Drone Capture Effarouchement. Ça veut tout dire, et qui travaille, bien sûr, pour des entreprises, pour effaroucher les oiseaux qui embête, quoi.
Exactement.
Voilà, c'est des pique-assiettes. Et puis, sans compter, on n'a pas parlé que des fois, ils se lâchent un petit peu, les goélands.
Plus,
donc, sur la belle robe.
Ouais, c'est pas bon. Sur le smoking de Brad Pitt.
Sur le smoking avant de monter les marches.
Bon. C'est pas bon.
Ça fait tache, c'est le cas de dire.
Exactement. Donc, en plus, c'est vrai que quand il y a des jolis buffets comme ça sur les plages, tout le monde est bien habillé, etc. Quand vous avez des goélands qui viennent, ils prennent tout. C'est un peu embêtant. Donc, bravo, Christophe, d'éviter ce genre de situation.
Merci, Christophe, en tout cas.
Un peu malvenu.
Et puis, bon courage, pour la fin de ce festival.
Laetitia, notre vidéo LOLCAT pour se dire au revoir, c'est un bulldog. Un petit bulldog qui adore se rouler dans l'herbe. Mais alors il adore ça. Et cette vidéo est d'ores et déjà sur la page Facebook de vos animaux sur RMC.
Mais vous allez voir, l'herbe est en pente.
Ah oui.
Eh oui, et c'est ça qui est rigolo.
C'est ça. Et donc, il roule comme ça, il remonte et puis il roule. Enfin, voilà, c'est très drôle. À découvrir donc sur Facebook. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, on sera là, bien sûr.
Oui, je vous embrasse tous. Un très bon week-end, parce que c'est un long week-end là qui s'annonce. Et à dimanche prochain, bien sûr.
Alors, je ne sais pas s'il se roule dans l'herbe. On va lui poser la question dans quelques minutes. C'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint pour l'automobile. 32-16 pour toutes vos questions. À tout de suite après la météo et les infos.